Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Selon le Saint-Siège, la nouvelle est importante et significative. Le pape François a convoqué une troisième assemblée extraordinaire du synode. Elle portera sur la pastorale de la famille et c'est la une de cette émission. Une messe pour les victimes de Lampedusa sera célébrée mercredi sur le tombeau de Saint-Pierre dans la crypte de la basilique vaticane. Le cardinal Sandri aura à ses côtés des évêques d'Éthiopie et d'Érythrée. Ils prieront pour les victimes et pour leurs familles en deuil. Ils exprimeront leur reconnaissance au pape François pour ses appels pressants afin que de telles tragédies ne se répètent plus. Quel avenir pour le dialogue islamo-chrétien dans le contexte international actuel? Beaucoup sont ceux qui se posent la question. À Rome, la communauté de Sant'Egidio s'efforce de construire des ponts. Nous en reparlerons dans ce magazine. C'est donc confirmé, le pape François a convoqué une assemblée extraordinaire du synode des évêques sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. L'assemblée s'ouvrira le 5 octobre 2014. Elle regroupera les présidents des conférences épiscopales du monde entier, soit 150 personnes environ. La nouvelle a été officiellement annoncée ce mardi à la mi-journée par le conseil ordinaire du secrétariat général du synode des évêques au terme d'une réunion de 2 jours à laquelle le pape François a exceptionnellement assisté Olivier Bonnel.
La réforme du fonctionnement du synode figure parmi les objectifs prioritaires du pape François, qui voudrait renforcer la collégialité dans le gouvernement de l'Église. Le conseil du secrétariat du synode pourrait par exemple devenir un conseil permanent travaillant avec le pape. La question a été abordée la semaine dernière lors de la première rencontre du pape avec le nouveau conseil des cardinaux, 8 cardinaux qui sont chargés de le conseiller et de le seconder dans le gouvernement de l'Église et sur les réformes à entreprendre. Le tout nouveau secrétaire général du synode, Mgr Lorenzo Baldisseri, nommé il y a quelques jours par le pape, a participé à l'une des sessions du Conseil des cardinaux. C'est dire l'importance du processus de synodalité que le pape François souhaite développer. Quant au thème choisi, la famille, est dans le contexte actuel un dossier prioritaire pour l'Église catholique. Parmi les questions les plus délicates figure le cas des divorcés remariés. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège l'a expliqué, le pape François veut que l'épiscopat du monde entier participe de manière responsable à la réflexion et aux prises de décision. Selon lui, il est essentiel que l'Église agisse de façon communautaire et que ses orientations pastorales sur les questions les plus importantes, comme la famille, soient prises sous la conduite du pape et des évêques. Dans un tel contexte, a martelé le père Lombardi, les initiatives pastorales prises par des personnes ou des institutions locales peuvent semer la confusion.
Un document du diocèse de Fribourg en Allemagne ouvre par exemple la possibilité de la communion aux divorcés remariés. Les décisions sur des thèmes aussi importants doivent se prendre dans la pleine communion, a martelé le père Lombardi. Le pape François, de son côté, a encore dit vendredi à Assise que l'engagement entre un homme et une femme pour la vie dans le mariage ainsi que la famille traditionnelle sont des réalités que l'Église veut défendre. En France, l'annonce de ce synode à qui le pape souhaite donner plus de place réjouit Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre. Il est le président du Conseil Famille et Société de l'Épiscopat français.
L'Église a toujours porté le souci de la famille. La famille est la cellule de base de la société, disait Jean-Paul II dans Familiaris Consortium. C'est la cellule de base de l'Église et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la France, je me réjouis de cette décision parce qu'on s'est aperçu dans ces derniers mois que la famille était menacée. Il y a des dispositions législatives, des décisions aussi administratives qui peuvent mettre en péril la famille. Et il me semble que aujourd'hui, l'Église doit se repositionner dans un service des familles, dans la diversité de ces familles, pour aider finalement les hommes à réussir cette expérience. Pour moi, je pense que ça va dans le sens d'un service d'humanité que l'Église doit remplir à l'égard des familles et qui est un enjeu pour la société autant que pour l'Église.
À l'échelle française précisément, on sait que les questions sociétales ont beaucoup divisé ces derniers mois. Quels sont les défis précisément pour l'Église en termes de pastorale familiale au vu des différentes évolutions, au vu des différents thèmes d'actualité?
Je pense que le défi pour l'Église française, c'est à la fois de manifester ce pourquoi elle tient au mariage et à la famille, cette attestation de ce qu'est la famille dans une attitude d'ouverture à toutes les formes de vie familiale, non pas pour les cautionner, l'Église elle ne dit pas que tout se vaut, mais il y a une responsabilité d'accompagnement des personnes qui s'engagent dans cette expérience de réussir une vie familiale. Alors je crois que c'est ce défi-là, et il me semble que le synode devra pouvoir prendre en compte à la fois l'attestation que le mariage et la famille, dans la tradition de l'Église, c'est pas n'importe quoi, et en même temps mettre en place une pastorale des familles qui accompagne chaque famille dans cet exercice difficile de réussir une vie familiale qui soit épanouissante pour les enfants qui naissent des couples qui se marient.
Un des dossiers brûlants pour l'Église, on le sait, c'est la communion pour les divorcés et remariés. Une question qui devrait être largement débattue justement lors du synode de l'an prochain. Est-ce que l'Église s'oriente progressivement vers une ouverture à la communion pour ces personnes divorcées et remariées ?
Je pense que dans la logique de ce que le pape François nous dit depuis maintenant plusieurs mois, ce souci de l'ouverture, de la miséricorde, il y a la prise en compte de cette demande des personnes divorcées et remariées qui vivent le non-accès à la communion eucharistique comme une exclusion d'Église. Et je crois que nous pouvons peut-être avancer dans une attitude pastorale qui manifeste davantage la miséricorde, sans pour autant revenir quand même sur des choses qui sont fondamentales, à savoir cet engagement à la fidélité. Il me semble que si on prenait des mesures libérales, faciles et rapides, on risquerait finalement de banaliser l'échec de l'engagement à la fidélité dans le mariage que représente le divorce. Il y a certainement des choses à mettre en place, je pense à s'inspirer peut-être de ce qui se vit dans la tradition orthodoxe, mais il ne s'agirait pas simplement d'ouvrir l'accès à la communion en disant « mais c'est pas grave, on peut ne pas garder la fidélité à l'engagement qu'on a pris, c'est banalisé ». Je crois qu'il y a là des questions beaucoup plus complexes qui demandent du temps et du discernement.
Monseigneur Brunin, interrogé par Olivier Bonnel. J'ajoute que le 24 octobre à Rome, le Conseil pontifical pour la famille organise un congrès sur les nouveaux horizons anthropologiques et les droits de la famille. Dans un communiqué, le Conseil pour la famille souligne que la question anthropologique est l'essence de toute culture, la base de la vie en société et du droit positif. Selon le Dicaster, la crise actuelle est avant tout anthropologique. Ce congrès coïncidera avec le 30e anniversaire de la Charte des droits de la famille. Parmi les participants, le cardinal Taglé, archevêque de Manille, le cardinal Onaye Khan, archevêque d'Abuja, et Carl Anderson, chevalier suprême des chevaliers de Colomb, ainsi que des philosophes, des juristes, des historiens et des économistes. Je vous le disais en titre, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales présidera ce mercredi au Vatican une concélébration eucharistique en mémoire des victimes du terrible naufrage survenu ces jours derniers au large de la petite île italienne de Lampedusa. Le cardinal Leonardo Sandri aura à ses côtés des évêques venus d'Éthiopie et d'Érythrée. Le bateau qui a fait naufrage transportait environ 500 Érythréens et Somaliens. La visite de ces évêques orientaux de rite alexandrin avait été programmée avant cette nouvelle tragédie. La messe sera célébrée sur le tombeau de l'apôtre Pierre dans la crypte de la basilique vaticane. La communauté du collège pontifical éthiopien a été invitée à se joindre à la célébration. Après la messe, les évêques orientaux assisteront à l'audience générale hebdomadaire. Sur place, l'église est toujours à pied d'œuvre, Thomas Chabol.
L'archevêque de Palerme demande que les rescapés soient transférés dans les plus brefs délais. Monseigneur Romeo s'est rendu à Lampedusa pour participer à une réunion de Caritas Sicile. Pour lui, tous les migrants qui se trouvent dans le centre d'accueil de Lampedusa devraient être relogés dans des conditions plus humaines. Ces personnes, souligne-t-il, n'ont pas affronté un tel voyage pour rester sur une île. Il faut accélérer les transferts. Monseigneur Romeo note que les personnes qui débarquent à Lampedusa ne sont qu'une infime minorité. Beaucoup d'autres, bien plus nombreux, s'entassent dans des des camps à la frontière libyenne où elles sont à la merci des trafiquants et des passeurs. Ils demandent une modification de la législation italienne en matière d'asile, un appel qui risque de rester sans réponse. Sur 28 États membres de l'Union européenne, 24 sont opposés à une modification des règles. Quant à la Commission européenne, elle n'envisage qu'une opération de sauvetage. Le budget de Frontex, l'agence de surveillance des frontières européennes, a été réduit au nom de l'austérité. La Commission a donc appelé les États membres à fournir des navires, des avions et surtout de l'argent. Peine perdue selon les experts qui dénoncent l'hypocrisie d'une telle mesure. Pour beaucoup, la solution passe par un contrôle des côtes de la Libye et de la Tunisie par les autorités de ces pays et par le démantèlement des réseaux de trafiquants. Mercredi, la commissaire européenne chargée des affaires intérieures accompagnera le président de la Commission européenne à Lampedusa.
Je vous rappelle que le pape François a envoyé à Lampedusa son aumônier, Mgr Krajewski. Lundi, ce dernier a béni les corps des victimes et il a rencontré les survivants dans des centres d'accueil pour leur faire part de la proximité du pape Bergoglio. Et alors que les plongeurs italiens poursuivaient leur travail de récupération des corps, deux navires ont sauvé dans les eaux siciliennes plus de 400 nouveaux immigrés clandestins qui se disent pour la plupart syriens. Principale région de coexistence entre fidèles des grandes religions du livre, le Proche-Orient est un foyer d'instabilité et de violence. Comment ne pas penser à la guerre qui déchire depuis 2 ans et demi la Syrie ou à l'Égypte, régulièrement théâtre de violences anti-coptes, sans parler de l'Irak où les chrétiens sont la cible de terroristes islamistes d'Al-Qaïda. La question du dialogue entre les chrétiens et les musulmans a été largement abordée la semaine dernière à Rome lors de la rencontre internationale organisée comme chaque année par la Communauté de santé Gidio. Spécialiste de ces questions, Mgr Santier, évêque de Troyes en France, se basant à la fois sur son expérience des relations entre catholiques et musulmans dans les quartiers de son diocèse et sur son expérience concernant le Proche-Orient notamment, il revient au micro de Xavier Sartre sur ces relations pas toujours faciles, mais pas impossibles.
Il est important de se rendre compte que le dialogue doit commencer dans la rue. C'est d'abord une rencontre de voisinage entre des gens qui vivent ensemble sur le même territoire, dans les mêmes cités, dans les mêmes rues, et qui ne sont pas pareils. Mais ils sont pareils sur un point, c'est que c'est tous des citoyens. La deuxième, c'est que aujourd'hui, le dialogue interreligieux à niveau international, étant donné la situation internationale, est quelque chose de nécessaire comme moyen de construire la paix. Et la troisième, et là ça me touche de très près dans une entreprise que nous avons commencé à monter en France, à la suite de ce qui avait été fait pour l'Irak, pour les chrétiens d'Irak. On a créé un observatoire sur la situation des minorités religieuses dans le monde, et on observe non pas du point de vue religieux simplement, on observe d'abord du point de vue de la citoyenneté de toutes les personnes qui ont une religion. La liberté religieuse fait partie de la citoyenneté.
Pour dialoguer, il faut que chaque partie ait bien conscience de ce qu'elle est. Il faut bien se connaître soi-même. Est-ce qu'on peut considérer que dans cette optique, les catholiques en particulier ont vraiment bien conscience de ce qu'ils sont?
Notre société occidentale s'est complètement sécularisée, a perdu un peu ce sens des fondamentaux qui fait vivre les personnes. Et ces fondamentaux, il faut absolument les retrouver. Nous sommes en grand déséquilibre par rapport aux musulmans à cet égard. Moi, je le dis très aussi librement que ça. Mais précisément, le dialogue nous renverra à nous-mêmes aussi. C'est aussi un des avantages du dialogue. Ça doit nous conduire à nous encourager à rechercher nous aussi qui nous sommes. Alors évidemment, il y a le danger, quand on ne sait vraiment pas qui on est, c'est de se laisser prendre par l'autre, et c'est surtout le cas chez les jeunes. Mais je pense que rencontrer des vraies croyances, ça nous aide à l'être nous-mêmes un peu plus.
Il y a toujours autant de violences, sinon plus, et ceux commis au nom de la religion, ce qui ne veut pas dire évidemment que la religion cautionne toutes ces violences. Comment on fait concrètement pour aller au-delà des bonnes paroles, des bonnes intentions?
Première chose, dénoncer l'instrumentalisation de la religion est déjà très important. Jean-Paul II l'a fait, Benoît XVI l'a fait, et des responsables musulmans le font. Dénoncer ensemble l'instrumentalisation de la religion. À un moment donné, les responsables de l'islam en France n'osaient pas trop s'associer à nous, par exemple pour condamner ce qui se passait en Irak, ils n'osaient pas trop. Aujourd'hui, ils osent, et on a fait un grand pas en avant, et je suis convaincu que ça aide à arrêter ça. Mais ça n'empêchera jamais que des gens se servent de la religion. Ça ne veut absolument pas dire que ces gens-là croient. C'est pas au nom de la foi, c'est au nom de la religion qu'ils le font. Donc cette distinction est, de mon point de vue, extrêmement importante parce que, au fond, On confond souvent foi et religion, surtout eux se présentent comme des croyants, mais eux-mêmes ne savent pas, au fond, que leurs motivations sont tout sauf des motivations liées à la foi. Et il faut le dire très fort, on n'a malheureusement pas beaucoup plus de moyens que cela, je n'en vois pas, non.
Autre participant à la rencontre de Santé Gidio, Mahmoud Azab, responsable du dialogue interreligieux à la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, au lieu de l'islam sunnite. Il a accepté d'évoquer la situation qui prévaut dans son pays, l'Égypte, et les relations entre musulmans et coptes, ainsi que la place des coptes dans la société égyptienne et sur le futur du pays.
Moi, je participe dans beaucoup de corps qui préparent l'Égypte pour l'avenir. Je vois exactement la moitié dont toutes les délégations des coptes sont très présents, les chrétiens tous. On travaille jour et nuit, et même dans la Constitution, il y a une délégation d'Al-Azhar, une délégation de l'Église, elle se réunit très souvent ensemble avant d'aller discuter avec tous les autres, avec les 50 membres. Surtout au début, nous étions d'accord, l'Église et nous, sur les valeurs de l'Égypte, l'identité égyptienne, un pays civilisé, tolérant depuis des millénaires, et doit continuer comme ça.
Autrement dit, si je vous comprends bien, vous étiez opposé aux frères musulmans et à la voie que le président Morsi avait prise.
On oppose à toute voix qui oublie ou qui nie ou qui ne connaît pas les vérités de l'Égypte. Un peuple civil et civilisé qui veut vivre en paix, qui a sa foi musulmane et chrétienne sans fanatisme, sans impliquer la religion partout. Le respect de l'État et de ses institutions qui ne soit pas soumis à un groupe ni à un parti quelconque, religieux ou autre. Donc tout ce qui essayer de le faire, nous serons contre, parce que c'est pas nous que les dissidents, c'est le peuple égyptien qui est sorti le 30 juin. Mais malheureusement, l'Occident ne veut pas voir les vérités. Et c'est pourquoi je viens de critiquer. Quand on essaie d'améliorer chez nous, d'arrêter la violence, on nous parle au nom de la démocratie, de laisser ceux qui veulent détruire au fond mal aux Égyptiens.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes pour une Égypte laïque ?
Le mot laïque a une très mauvaise réputation chez nous. Parce que quand vous dites laïque dans le monde arabe ou état civil, comme si vous êtes contre les religions. Si vous acceptez en Europe, en France ou ailleurs quelque chose de ce type, les Égyptiens sont très croyants et pratiquants, musulmans et chrétiens. On dit que nous voulons ensemble, dans la déclaration d'Al-Azhar, on l'a fait ensemble, musulmans et chrétiens, un pays, un État, wataniya, national, démocrate, constitutionnel, et moderne. Voilà.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Sachez par ailleurs que le pape François a reçu la semaine dernière un message d'appel à l'aide des familles chrétiennes de Beit Jala dans le district de Bethléem, l'informant de leur souffrance. Le père Chomali, curé latin de Beit Jala, a dénoncé l'oppression israélienne contre les Palestiniens. Israël a en effet confisqué une partie des terres des villageois pour prolonger le mur de séparation à l'entrée de la vallée de Crémizan. En avril dernier, les chefs des églises catholiques de Terre Sainte avait réclamé la modification du tracé du mur, soulignant par ailleurs que l'expropriation de terrain ne sert nullement la cause de la paix et ne renforce guère la position des modérés. En plus bref, au Vatican, cette fin de semaine sera placée sous le signe de Marie dans le cadre de l'année de la foi. Samedi à 17h, sur la place Saint-Pierre, le pape François accueillera solennellement la statue de Notre-Dame de Fatima. Dans le diadème en or qui couronne cette statue, Jean-Paul II avait fait sertir la balle qui avait failli le tuer le 13 mai 1981. Dimanche, toujours sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife présidera une concélébration eucharistique à partir de 10h30. Les journées mariales se déroulent sous les auspices du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Et le souverain pontife poursuit par ailleurs à un rythme soutenu les nominations ou les confirmations au sommet de la Curie romaine. Ce mardi, il a nommé vice-préfet des archives secrètes du Vatican un Italien, Paolo Cherubini, professeur de paléographie latine à l'université de Palerme et à l'école vaticane de paléographie diplomatique et archivistique rattachée aux archives secrètes du Vatican, une école unique en son genre fondée par Léon XIII. L'élève, la librairie éditrice Vatican, participera avec 700 titres à la Foire internationale du livre de Francfort du 9 au 13 octobre. Le directeur de la LEV, le père Giuseppe Costa, a déjà une centaine de rendez-vous avec des éditeurs étrangers dont l'intérêt ne cesse de grandir à l'égard des ouvrages publiés par le Vatican. Parmi les plus demandés, les publications du cardinal Bergoglio et du pape François. Pour leur part, les musées du Vatican, qui partageront avec la LEV un stand d'une centaine de mètres carrés, présenteront 200 volumes à la foire de Francfort. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de votre fidélité.